On sert un bon Dieu. Amen. Hallelujah. Vous pouvez vous asseoir. Combien de vous êtes super contents puis super encouragés de savoir que vous servez un Dieu qui est bon dans toutes ses voies? Tu sais, il aurait pu venir nous sauver puis dire, vous êtes bien chanceux que je vous envoie quelqu'un qui vous fait éviter l'enfer et puis qui va pouvoir tracer le chemin pour vous. Mais dans le reste, endurez. C'est vous autres qui avez voulu faire entrer l'autorité par un autre. Vous avez donné votre autorité à un autre. Bien, endurez maintenant, mais au moins, réjouissez-vous que vous serez au ciel pour l'éternité. Non, il est bon dans toutes ses voies. Amen. Toutes ses voies. Le mot « sauver » vraiment inclut tout le forfait au complet. Amen. On a déjà parlé ici. Comment que c'est pas juste une nuit à l'hôtel qu'on a, mais on a le forfait au complet. Amen. On a le souper gastronomique, puis on a le déjeuner continental, puis même plus que continental. Amen. On a le forfait au complet. Merci Seigneur qu'il est bon dans toutes ses voies. Que ce soit la prospérité, la guérison, la paix, la délivrance, le salut, tout est bon avec Dieu. Amen. Il tourne ça au bon. Gloire à Dieu. Hallelujah. Oh, merci Seigneur. Hallelujah. On va regarder une des raisons qui nous démontre que c'est la volonté de Dieu qu'on soit en santé et tout le reste. Amen. C'est à cause de la fidélité de Dieu. Amen. Parce que Dieu, il est fidèle. Amen. On va aller au psaume 91. Au psaume 91, vous savez, le psaume 91, c'est vraiment le psaume de la protection. Amen. Vous ne pourrez pas suivre en l'air là, mais ce n'est pas grave. Amen. Le psaume 91, c'est vraiment un psaume qu'on peut prendre et puis le répéter sur nos enfants. Il y a un homme qui, j'en ai déjà parlé, comment que, il confessait toujours le psaume 91 avant d'aller travailler. Et puis sur sa vie, sur sa femme, ses enfants. Et puis un jour, il était complètement dans son bureau en arrière. Il n'était pas sûr d'avoir entendu du bruit, des coups de feu. Il n'était pas sûr. Et puis finalement, c'était vraiment ça. Il y a quelqu'un qui avait rentré armé puis commençait à tirer sur le monde. Puis lui, en n'étant pas certain, bien, il a sorti de son bureau. Et puis, la balle l'a frappé juste sur le côté ici, mais assez pour avoir assez de sang que le gars pensait qu'il l'avait eu. Mais lui, il priait toujours le psaume 91, comme quoi qu'il était protégé. Amen. Amen. Et puis, je connais un autre homme aussi qui priait ça sur ses enfants continuellement. Chaque matin, il récite le psaume 91 et le demande pour ses enfants. Et puis, le petit gars, il s'en allait sur sa planche, là, sur le trottoir, puis il a arrêté une vanne, et puis la porte, une Econoline, la porte du côté s'est ouverte, et puis le gars, il s'en allait pour pogner le petit gars, puis quand il est arrivé bien proche, c'est pareil comme s'il a eu peur, puis il voyait quelque chose, et puis il a parti en courant, il est rentré dans la vanne, puis il a parti. Et c'était deux gars, il y en avait un qui chauffait, puis il y en a un qui ouvrait la porte. Et puis l'homme est convaincu que quand il est arrivé pour toucher à son petit gars, il y avait un ange. Amen. Qui était là, puis ça s'appelait « Don't touch ». Amen. L'homme, il a eu peur, il avait de la froid dans sa face. Le petit gars, il a eu peur, mais il voyait que l'homme a eu peur aussi. Amen. Alors vraiment, le psaume 91, c'est vraiment un psaume qu'on doit réclamer continuellement. Je vais commencer à lire au verset 1, ça dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Il dit, Père éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui nous délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il nous couvre de ses plumes et on trouve un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La fidélité de Dieu devient dans ta vie ton bouclier puis toute une cuirasse. C'est une protection totale. Non seulement toute la cuirasse, mais tu as même un bouclier en avant de toi pour te protéger. Ça, c'est la fidélité de Dieu. Alors, c'est pour ça que le verset 5 est là. Tu ne crains ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, toi, tu n'es pas atteint. Pourquoi? À cause de la fidélité de Dieu. Ça dit, sa fidélité est pour toi un bouclier, une cuirasse. Ça, c'est au verset 4. Il dit, pour ça, tu n'auras pas besoin de craindre la terreur de la nuit, la flèche qui vole de jour, la peste. Ça, c'est la maladie, les maladies contagieuses qui marchent dans les ténèbres, la contagion qui frappe en plein midi. Autrement dit, tu n'auras pas besoin d'avoir peur de ce qui peut frapper, que ce soit la peste, la maladie, la terreur de la nuit, peu importe. La fidélité de Dieu devient ton bouclier puis ta cuirasse. Amen. Le mot fidélité, voici ce que ça veut dire. Exactitude à remplir ses engagements. Exactitude. Ça veut dire que Dieu, quand il promet quelque chose, il est exact pour remplir ses engagements. Dieu, il s'est engagé déjà dans Genèse pour pouvoir, il a dit à la femme que de sa descendance arriverait le salut. Puis il dit, tu vas y écraser la tête avec ton talon. Amen. Il a dit à la femme de sa descendance que le salut viendrait. Je le dis dans mes mots. Mais vraiment, Dieu est fidèle à remplir ses engagements. C'est ça la fidélité. Vraiment, si j'explique la fidélité, je pourrais dire, on peut se fier. Vous savez, si quelqu'un ici à l'église est une personne fidèle, et puis a dit, nous autres, on va être ici, puis on va faire ça à chaque semaine, ta-da-da-da-da. Vous savez, on n'a pas besoin de se casser la tête, ça va-tu être fait? Seras-tu pas fait? Ça va-tu être fait? Non, parce que la personne, on sait qu'elle est fidèle. Amen. Il y a des gens qui ne le sont pas fidèles. Et là, on s'inquiète. Mais une personne qui est fidèle, combien de vous savez que tu n'as pas besoin de t'inquiéter? Tu pars en voyage, la personne a dit, je vais ramasser ta malle, puis je vais venir une fois par jour nourrir le chat, puis je vais checker dans la maison. Puis tu connais la personne. Tu le sais que c'est une personne qui fait ce qu'elle dit. C'est quoi tu vas dire? Je ne suis pas inquiète. Tu ne pars pas inquiète. Donc, la fidélité va enlever la peur, va amener l'assurance, et puis va faire que tu peux te fier. Mais quand on dit que Dieu il est fidèle, sa fidélité, elle agit sur nous comme un bouclier, une cuirasse, ça veut dire qu'on peut se fier, on a une assurance à l'intérieur de nous autres, on n'a pas besoin d'être inquiète, ça l'amène une paix. Amen. Amen. Si je dis que quelqu'un est fidèle, ça m'enlève, comme je dis, la crainte, ça veut dire aussi que la personne, elle est constante. Des fois, on va dire, qu'elle est fidèle. Puis la raison qu'on dit ça, c'est qu'on sait que la personne est toujours là, toujours là, toujours là à faire les choses. Elle est toujours présente. Des fois, on va voir ça de quelqu'un qui va visiter sa mère, exemple, à toutes les semaines. Et puis, la mère n'a pas besoin d'être inquiète. Elle sait que le lundi soir, elle va voir arriver sa fille. Elle est fidèle, elle est constante. Ça fait que dire que quand on dit que Dieu est fidèle, on peut savoir aussi qu'il est constant. Il n'est pas parti en voyage en quelque part, puis où es-tu, Seigneur, m'entends-tu un matin? On sait que Dieu il est toujours là. Il dit, jamais je vous abandonnerai, jamais je vous délaisserai. Et puis un de ses noms, c'est qu'il est toujours présent. Il est toujours présent, il est fidèle, il est constant. Aussitôt qu'on s'approche de son trône de grâce et qu'on demande quelque chose selon sa volonté, la parole de Dieu dit, il nous écoute. Donc, il est constant, il est fidèle, il est là, il est présent. Amen. Ça, c'est un attribut de la fidélité. Un autre, c'est qu'il tient ses promesses. Combien de vous avez déjà eu des gens qui ont dit, en tout cas, tu auras juste à me le dire, et puis quand tu vas faire telle affaire, là, tu vas voir, je vais être là. Puis aussitôt que là, c'est le temps de faire tes choses, là, tu peux jamais te fier. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui s'élève, la personne n'est jamais là. Donc c'est plate. Amen. Mais une personne qui est fidèle, elle va tenir ses promesses. Il y a des gens là, qui sont tellement fidèles que même s'il y aurait 15 empêchements, ils n'ont pas dormi de la nuit, ils ont fait de la fièvre, ils vont être là pareil. Ils arrivent avec le café, ils ont peut-être les yeux caillés, mais ils sont là pareil. Ils sont fidèles, ils tiennent leurs promesses. Savez-vous que la fidélité, c'est une qualité qu'on ne retrouve presque plus aujourd'hui de nos jours? Voici comment que le monde parle. Bien, tu sais, aujourd'hui, on ne peut plus se fier. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? On ne peut plus avoir confiance. On ne peut plus truster. Là. On ne peut plus savoir si la personne va vraiment le faire ou pas le faire. Le monde dit ça. Bien, tu sais, aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Tu sais, là, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Tu sais, on va se marier. Aujourd'hui, tu sais, on ne sait pas ce qui peut arriver. Ça fait 20 ans qu'on est mariés, mais on ne sait pas ce qui peut arriver. Ben oui, pourquoi que le monde pense comme ça? Parce que le mot fidélité, c'est plus là. C'est plus là comme là, 60 ans, ou dans le temps de nos parents, exemple. Quand ils disaient qu'ils étaient pour faire quelque chose, c'est mon beau-père, lui, il faisait des trims. Et puis, tous ces gars, ils ont demandé c'est quoi faire des trims. Ils l'ont jamais su. Ça, on fait ça le dimanche après-midi quand il pleut. C'est des jokes que je fais. Je ne sais même pas c'est quoi faire des trims. Non, mais autrefois, les personnes âgées, s'ils disaient qu'ils allaient aider le voisin, ils étaient là. Ils arrivaient avant que le voisin se lève, puis le tracteur était là, puis voyons donc, ils sont déjà arrivés. Ils étaient là, ils étaient constants, ils peuvent se fier. Mais c'est dommage aujourd'hui parce qu'on vit dans un temps où la foi devrait être exprimée plus que jamais, puis devrait être enseignée plus que jamais. Parce qu'il y a tellement de choses autour de nous, puis il y a tellement de gens connaissants, de petits Joe connaissants aussi, qui nous disent et nous prédisent toutes sortes d'affaires. « Ah ouais, mais toi, ah, t'as de la misère à respirer, ça, c'est telle affaire. Hein? » Tout le monde connaît tout à cette heure dans la médecine. Hein? T'as pas besoin de suivre de cours de médecin. Tout le monde connaît tout. Ah oui, t'as mal dans le dos, ça, je le sais, ça, c'est telle affaire, ça, c'est un problème, tu dois avoir mal au rein un peu avec ça. Ah oui, ça, c'est telle. Tout le monde connaît tout. Fait que t'es bien mieux de vivre par la foi parce que le monde, ils en disent des choses, puis ils en font des choses autour de nous autres. Mais il n'y a plus de fidélité. Il n'a plus. Les jeunes ont de la misère à vouloir se marier parce qu'ils ne croient plus que ça peut durer. Amen. Ils ont de la misère à faire les choses parce que même on le voit au travers des années. Depuis 15 ans qu'on a l'Église, on voit déjà une différence dans l'attitude des gens. Ils disent qu'ils vont être là, ils ne sont pas. C'est incroyable. On a de la misère à comprendre. On est là, ben voyons donc. on attend, puis ils ne viennent pas. La fidélité. Est-ce que je parle tout seul le matin? Ou bien non, c'est, vous avez expérimenté la même chose? Bon, OK. Parce que vous avez l'air de me regarder comme si... Hein? Ah, oh, ouais, le monde sont moins fidèles qu'avant. Mais ce que je veux démontrer, c'est que c'est Dieu est fidèle. Amen. Il est fidèle. Et puis, c'est sûr que, je vais donner un exemple. Moi, mon père, j'ai été gâtée. OK, Huguette ne l'a pas été, mais moi, je l'ai été, c'est des jokes. Et puis, mon père, il me donnait toujours 10 cents à tous les jours pour acheter 2 beignes au miel avant d'aller à l'école, en passant. Ben oui, un bon déjeuner, ça. Ben oui. Et ben oui. Et puis quand il oubliait de me le donner, j'allais sonner où il travaillait. Et puis, il allait le chercher dans le fond de la shop. Lui, il pensait que c'était une urgence, puis c'était moi qui étais à la porte pour qu'il me donne mon 10 cents. OK? J'étais gâtée. Je le savais que mon père m'aimait. Si j'allais au magasin avec ma mère pour avoir un petit manteau, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Je m'en souviens encore, il y avait un manteau bleu en coton, puis un manteau blanc en cuir avec un petit collet mauve. Ben, elle dit, appelle ton père, il est beaucoup plus cher. Fait que là, j'ai dit à mon père, j'ai dit, tu veux-tu que j'aille un manteau lait bleu ou un beau blanc avec un collet mauve? Ben, tu prends le beau blanc avec un collet mauve. Papa, il veut, tu sais, il veut dire. Fait que j'ai été gâtée. Fait que pour moi, quand je suis venue au Seigneur, c'était très, très facile de croire que Dieu m'aimait. OK? Je comprends des gens qui n'ont pas eu un père fidèle, un père d'amour, puis après ça, tu leur parles de Dieu le Père, puis on dirait qu'ils ont de la misère à associer. OK? Il faut qu'ils renouvellent beaucoup leur intelligence avec la parole de Dieu pour vraiment voir qu'est-ce que c'est les qualités d'un père. Vous comprenez? Mais moi, je n'ai pas eu besoin de faire ça. C'était facile, facile. J'arrivais devant Dieu, je disais, c'est encore moi qui sonne. T'as oublié de me donner des pièces aujourd'hui, Seigneur. N'est plus dans mon portefeuille. Ça marche. OK? Fait que laissez-moi tranquille avec mon père. Amen. Non, mais Dieu, je le sais qu'il nous aime. Ça, j'ai pas eu besoin de le travailler. Mais c'est la même chose avec la fidélité. Pourquoi j'ai donné cet exemple-là? Parce qu'avec la fidélité, on a besoin de le travailler. Parce que le monde autour de nous autres, les gens, les situations, nous démontrent pas c'est quoi la fidélité. C'est comme si on a de la misère à voir c'est quoi vraiment la fidélité. La fidélité, c'est quand tu peux t'appuyer, puis ça va, tu n'as plus besoin d'être inquiète, tu le sais que ça va être fait, tu le sais que ça va être constant, tu le sais que ça va durer, tu le sais que ça va, que l'action va avec les paroles. C'est que si la personne, elle arrive et elle dit, fais-toi sous moi, parce qu'il y a des gens, des fois, qui arrivaient et nous disaient, « Oh, on attend mon temps. » Au début qu'on avait à l'église, puis moi, vous dire de quoi, ça l'arrivait de peine et de misère. Puis là, il y en avait qui nous disaient des fois, « On attend quelque chose, puis on veut vraiment bénir l'église. » On attend encore, ça fait 15 ans. Tu sais, je veux dire, c'est beaucoup, beaucoup de gens, ils parlaient, mais ça ne va pas avec. Tu sais, l'action n'est pas là. Puis on dirait que ça te vole vraiment ce que fidélité veut dire. Amen. C'est pour ça que j'aime beaucoup les personnes âgées. Ils sont fidèles. C'est du monde qui ont appris que la parlette va avec le reste. OK? Alors vraiment, la fidélité, c'est vraiment remplir ses engagements. Pasteur Réal, c'est un homme fidèle. Hey boy, que je n'ai pas besoin de chercher 10 000 la ronde. J'ai juste à regarder mon mari. C'est un homme fidèle. S'il dit qu'il va être là, il va être là. Puis s'il dit qu'il va le faire, il va le faire. Puis il a beau avoir mal dans le dos, puis des fois, il marche arrangé de même. Et puis s'il y a des roches à tosser, il va être tossé pareil. Il continue pareil. Mal, pas mal. Il est habitué comme ça. C'est une ferme. Et puis en voie, il s'avance. C'est un homme fidèle. Il a été habitué hein, dans l'armée. Yes, sir, no, sir. Puis on y va. Hein? Alors, c'est un homme fidèle. Fait que pour moi, c'est facile d'imaginer c'est quoi la fidélité. Puis je le compare avec Dieu. Dieu y est fidèle. Sarah, elle a été convaincue par la fidélité de Dieu. On va aller à Hébreux 11. Ça devrait être enseigné le mercredi soir. Mais on va l'enseigner ce matin parce qu'on veut parler comment Dieu est fidèle. Ça dit au verset 11, Hébreux 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Sarah, elle avait 90 ans, puis on dit, elle a eu la foi pour concevoir la promesse que Dieu lui faisait parce qu'elle a cru à sa fidélité. On va aller voir en Genèse 17. Voyez-vous, dans Genèse 17, au verset 15, avant ça, Dieu y avait dit à Abraham, je vais juste lire à partir du verset 1, excusez, là, je vais vous montrer ce que Dieu avait dit à Abraham. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Marche devant ma face, puis sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Il est content parce qu'il a déjà connu Agar. Puis il s'était agarré avec elle, puis il a eu un enfant. OK? Parce que la femme d'Abraham, elle lui avait présenté la servante. Parce qu'elle, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Fait qu'elle lui a présenté sa servante, puis elle dit, arrange-toi pour avoir un enfant avec elle. Comme ça, la promesse de Dieu va s'accomplir. Tu vas avoir une descendance, comme il te le dit. Fait que quand Dieu, là, c'est déjà fait. Ismaël est là. Alors Dieu lui dit, il a 99 ans, je vais te rendre fécond, je vais te multiplier. Abraham est bien content parce qu'il a déjà un fils. Fait qu'il dit, merci Seigneur, de mon fils, ça va venir. Mais au verset 15, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Oh, là, c'est plus pareil. Hein? Je pensais tantôt, quand tu me parlais au début du chapitre, que tu disais que j'aurais une descendance puis il serait multiplié. Attends un peu, là. Wow, wow. Là, tu me parles de ma femme, Sarah, qui va avoir un enfant. Fait que regardez ce qui est arrivé au verset 17. Abraham tomba sur sa face et il rit. Puis il a dit en son cœur, « Naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 99 ans, enfantera-t-elle? » Autrement dit, là, ça a-tu déjà arrivé que Dieu, il y a une parole qui vous est venue, puis ça vous a fait rire un peu parce que c'est comme, « Ouh, ça serait pas mal beau, hein, si ça arriverait comme ça. » Alors, on voit que Abraham, il n'est pas dans la foi à transporter des montagnes là. Abraham est en train de rire, puis il dit, « Ouais, il a même tombé à terre, là. Il faut qu'il rie, hein? » Il a tombé sur sa face, il est crampé bien dur. Puis il dit, « Wow, 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 Seigneur! » Il y en a un, là, qui arrive à 10 ans, là. Et puis, il s'appelle Ismaël. Ça, c'était correct. Mais là, wow, wow, tu changes de tableau, là, Seigneur. Là, tu me parles de ma femme, Sarah, qui est rendue à 90. Puis moi, je suis rendue à 100 ans. Et là, il se roule à terre, puis il rit. Regardez ce que Dieu lui dit. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Dieu, il est sérieux. Parce que Dieu, il est fidèle. Parce que Dieu, il sait ce qu'il est capable de faire. Parce que quand Dieu parle, la chose, elle arrive. Puis quand il l'ordonne, elle existe. Puis quand Dieu dit que c'est ça, c'est ça. Amen. Alors, il y a des anges qui sont arrivés pour visiter Monsieur, amen. Alors, on va aller au chapitre 18. Et puis, il y a des anges qui sont venus pour parler à Abraham. Et puis, il lui parle à propos de Sarah. Alors, au verset 9. Alors, ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme? » Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même. Elle aussi a trouvé ça drôle. C'est vrai que c'est assez drôle quand tu as 100 ans puis l'autre n'a 90 puis... Tu sais que ça recommence ton affaire, hein? Alors, elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Parce qu'elle est comme son mari. » Voilà la réponse. OK, c'est pas écrit, là. Alors, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? » Il dit, « Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri. » Ça veut dire que son mari est arrivé et il a dit, « Tu ris? » Non. Bien, en tout cas, c'est pas grave. elle a eu un fils pareil. Dieu a dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Si Dieu promet quelque chose, on ne devrait pas être étonné. On ne devrait pas être tombé à terre à propos de la situation. Avec Dieu, il n'y a rien qui peut être étonnant. Dieu il a créé l'univers par sa parole. Fait que quand il parle, lui, il ne se demandera pas si ça va arriver ou si ça n'arrivera pas. Il le sait que ça va arriver. Quand il a dit qu'il y ait de la lumière, il y en avait. Quand il a dit qu'il y ait de la verdure, il y en avait. Puis quand il dit tu vas avoir un enfant, tu vas en avoir un. Amen. C'est Dieu. Il n'y a rien d'étonnant de lui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham et Sarah? On n'a pas besoin de vous le dire. Ils se sont connus. OK? Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils sont arrivés à la place que l'enfant Isaac est né et qui ont accepté cette parole-là? Alors, parce qu'on va aller au chapitre 21. Ça dit... Au verset 1, « L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. » OK. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a lu tantôt, on a lu la réponse tantôt dans Hébreux 11, 11. Ça dit que Sarah, par la foi, elle a été capable d'avoir un fils parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui faisait la promesse. Ça veut dire qu'après avoir ri, puis après que son mari s'est relevé de la terre parce qu'il avait ri lui-ci, ils sont allés s'asseoir tous les deux, peut-être sur le bord du lit. Amen. Et puis là, ils ont dit, Sarah a dit, non. Sarah a dit, quand Dieu nous a dit de partir de Ur en Chaldée, parce que c'est Sarah qui a cru à la fidélité, c'est elle qui tombe enceinte. Fait qu'en quelque part, elle a une part à faire là-dedans. Fait qu'elle a dit, quand on est parti de Ur en Chaldée, puis Dieu il a dit qu'il nous amènerait au bon endroit, ben, elle dit, il l'a fait. Puis elle dit, après ça, elle dit, il y avait la famine, on est rentré en Égypte, et puis Pharaon m'avait emmené dans sa maison, et puis on a cru Dieu, puis en fin de compte, il nous a laissé aller, il ne t'a pas tué, parce qu'il aurait pu tuer Abraham, parce que Sarah était très belle, et puis il aurait pu se la vouloir pour lui, puis tuer Abraham. Elle dit, en fin de compte, il nous a laissé aller, puis il nous a même béni. Fait qu'elle dit... Dieu, il était avec nous autres, puis il était fidèle. Puis elle dit, Dieu, il nous a bien promis que quand on est parti de Ur en Chaldée, qu'il ferait de nous une bénédiction, et puis qu'on bénirait toutes les nations de la terre, on serait bénis, à cause de nous, et qu'on serait prospères. Puis elle dit, hey, on est-tu devenu assez prospère à ton goût? Fait que là, Abraham, il dit oui. Il dit, même Lot pouvait même plus rester avec nous autres. Fait que là, ils ont commencé à évaluer. Quand Dieu parle, la chose, elle arrive. Quand Dieu parle, la chose, elle arrive. Puis là, ils ont jugé que quand ils parlaient, il y avait une fidélité en arrière de qu'est-ce qu'ils disaient. Ils l'ont jugé fidèle. Ça dit que Sarah, par la foi, a été capable d'avoir un enfant parce qu'elle a jugé fidèle celui qui avait fait la promesse. Fait que c'est très important que nous autres, on regarde, est-ce que Dieu y est fidèle? Amen. Est-ce que Dieu y est fidèle? Et puis, moi, il y a des choses dans ma vie, des fois, que ça ne s'est pas passé comme j'aurais voulu. Il y a une chose que j'ai compris en partant en nom Seigneur. C'est jamais la faute de Dieu parce que lui, il est fidèle. En quelque part, j'ai fait quelque chose de pas correct. En quelque part, j'ai ouvert une porte où j'ai mal parlé, où je n'ai pas resté constante dans ma foi, où j'ai diminué dans ma foi ou quelque chose, où il m'a demandé d'obéir, puis ça l'aurait aidé à ma situation. Je ne l'ai pas faite. C'est jamais de sa faute à lui. Parce que quand Dieu parle, la chose, elle arrive. Puis si Dieu promet dans sa parole qu'il était pour nous sauver, il l'a fait. Si Dieu il promet qu'il envoyait un sauveur, Jésus est venu. Puis si Jésus a promis toutes les choses qu'il a promis parlant de son Père, ça l'arrive. et ça s'est fait. Amen. Fait qu'il est fidèle. Fait que c'est ça qu'il faut faire. Moi, je me souviens quand j'étais... Quand je vivais dans la peur, j'avais juste à entendre parler d'une maladie, puis je l'avais. Je pensais que je l'avais. Mais le médecin me dit, à force, au bout de 6 mois, à me voir à toutes les 2 semaines dans son bureau, il a dit, « Tu sais que tu vas finir par en avoir un cancer? » À force d'être ici, puis tu as pensé que tu n'as pas. Puis à force de parler comme tu parles, il dit, « Tu vas finir par être vraiment malade, là. » Puis j'avais 26 ans. « Hey, c'est jeune! » Je repense à ça aujourd'hui, j'étais à Winnipeg. Et puis, c'est comme ça que j'étais. Je vivais dans la peur. Puis je voulais dire quelque chose à propos de... Ah oui! Et puis, quand que je suis venue au Seigneur, 2 ans après que j'étais un bébé chrétien, et puis, 2-3 ans après, ils ont trouvé une bosse dans mon corps. Puis ils ont dit, si c'est un kyste, on ne le verra pas quand on va passer les examens. Mais si c'est quelque chose qui est plus une tumeur, on va le voir. Fait qu'ils m'ont rappelé, mais ils ont dit, on le voit. D'habitude, là, j'aurais même pas eu le temps de me rendre dans l'hôpital, je serais morte de peur. Mais il y a une chose que j'ai faite un soir. Je me suis assise dans mon bureau. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai commencé à évaluer tout ce que Dieu y avait fait pour moi depuis que j'étais sauvée. J'ai commencé à dire, hey, moi, là, j'étais dans la peur. Puis je disais toujours à mon mari, j'aimerais assez ça arrêter d'avoir peur. Puis on connaissait une madame en Abitibi qui était pour mourir. Puis elle a dit, non, elle a dit, faites ce que vous avez à faire. Moi, je vais revenir ici, les 2 pieds debout, puis moi, être correct. Puis moi, elle m'impressionnait, cette femme-là, elle était catholique, puis ce qu'elle était une grande croyante. Puis je disais toujours à mon mari, est-ce que j'aimerais s'arrêter d'avoir peur? J'aimerais tellement ça, être comme elle. Oh, j'aimerais tellement ça, moi, me lever le matin, là, vivre normal. Parce que moi, je ne vivais pas normal, là. On prévoyait d'aller magasiner le samedi, on restait en Abitibi, à Saint-Notaire, pour la faire 1 heure de route pour aller à Val-d'Or. Et puis là, les femmes étaient toutes prêtes le samedi matin. Puis là, mon mari disait, « Bon, mais passe une bonne journée. » Puis là, il me donnait un petit bec. Il n'avait pas l'habitude de faire ça. Il n'aime pas s'embrasser. Puis là, ça commençait dans ma tête. « Sais-tu pourquoi qu'il t'embrassait? » Parce que c'était la dernière fois qu'il t'embrassait. Parce que tu vas mourir en t'en allant. Fait que là, j'appelais les femmes, je n'allais pas magasiner. Ça, c'est une petite partie de mes peurs, là. Une petite partie. Fait que là, j'étais là, puis je disais, Seigneur, parce que moi, il m'a délivré de la peur du jour au lendemain. Hein. Fini. Je me suis vraiment levée le lendemain matin, même couchée le soir, puis j'avais plus peur. Hey, je le sais, là, quand j'ai plus peur, là. Puis là, je disais, Seigneur, tu as été tellement fidèle. Aussitôt que la personne a prié sur moi, c'était fini. Après ça, Seigneur, on était en Abitibi, puis j'avais cru en toi pour sortir de là. Puis c'était encore une situation impossible. C'est un miracle que ça prendrait l'avant-midi pour le raconter. C'était impossible de sortir de Saint-Notaire, impossible. Rien dans le naturel pouvait me prouver que j'avais un espoir. Rien! L'homme de carrière à Ottawa, il disait non. Il n'y a pas de position pour un adjudant. Le boss de mon mari, capitaine, il venait de Montréal. Lui, ça faisait 2 ans qu'il était là. Sa femme, elle faisait une dépresse parce qu'elle voulait sortir de là. Puis un officier reste juste 2 ans sur une base militaire. Fait qu'il y avait 1 001 chances de sortir avant mon mari. En plus, l'officier parlait avec l'homme de carrière à Ottawa, puis il disait, « Paulus, il est bon ici. » En plus, mon mari était en charge de tous les civils qui travaillaient sur la base, les électriciens, les plombiers, les ci, les ça. En plus, la base allait fermer dans 4 ans. Fait qu'il y avait besoin d'un gars comme mon mari, parce que les gars commencent à voler sur la base. Quand ils savent qu'elle va fermer, puis elle va probablement se détériorer, ils commencent à voler. Il y avait besoin de mon mari parce qu'il connaissait les gars, puis il savait où s'en aller avec eux autres. Il y avait besoin d'un gars fiable. Des en plus, c'est plein. Fait que moi, je suis assise dans mon bureau, je dis, Seigneur, j'ai osé croire jusqu'à la dernière minute, puis tu es arrivé au mois de juin. puis tu nous as sortis de là. Ça a fait une fureur sur la base. Un des capitaines, il m'a appelé, puis il a dit, « Qu'est-ce que vous avez fait pour réussir à sortir d'ici? » J'ai dit, « T'as-tu 5 minutes, moi, de parler du Seigneur? » Ça a toujours été comme ça. Fait que là, je t'assis, puis là, puis je disais, « Merci, Seigneur. » Puis là, je commençais à louer à chaque chose. Puis là, j'avais toujours chialé quand on était à Winnipeg parce que mon amie de femme, son mari était une caporale tandis que le mien était sergent. Puis elle avait un beau loyer militaire. Moi, ça faisait dur, mon affaire. Mais quand on est arrivé à Chatham, j'avais exactement le loyer qu'elle, elle avait à Winnipeg. C'est comme si Dieu dit, « Va-tu arrêter de brailler? » Il me l'a donné un super de beau. Mon mari est en amour avec les Canadian Tower. On avait un qui a sorti sur le perron puis fait ça, puis il y avait un Canadian Tower juste là. Moi, je mets les avions, je me virais sur l'autre bord, puis les avions atterrissaient. Non, mais là, je suis assis dans mon bureau, puis là, je loue le Seigneur, puis je dis, Seigneur, quand tu fais quelque chose, tu fais toujours infiniment au-delà. C'est toujours... non seulement tu m'as sorti de Sainte-Terre, puis même, pour rendre la chose encore plus impossible possible, c'est que où est-ce qu'on est allé à Chatham, au Nouveau-Brunswick, quand on a sorti de Sainte-Terre, ils ont ouvert un poste, il n'existait même pas avant. Puis je le sais parce que la femme qui travaillait comme secrétaire était ma voisine à Québec. Puis elle avait hâte de me voir quand elle a vu non Paulus parce qu'elle dit qu'elle doit être malade mentale au bout. Elle savait comment j'avais peur. Au début de mon mariage, elle était ma voisine. Puis elle a dit, elle doit être rendue ses médicaments freak out, ben raide. Bipolaire, puis toutes les R, puis tout. Parce que j'étais malade. J'étais malade. Je les avais toutes, les maladies. Je les avais toutes. Une personne m'a porté une liste. Une fois, j'ai dit, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. J'avais toutes les choses. Fait qu'elle avait hâte de me voir. Quand elle est venue, bien là, j'étais sauvée. Elle est partie de chez nous, puis elle a accepté le Seigneur. Elle n'en revenait pas. Elle a tombé sur le dos bien raide quand elle m'a vue. Puis elle a dit, « Sais-tu quoi? » Elle a dit, « Le poste vient d'ouvrir, là, un mois. Il n'existait même pas avant. » Dieu, il a même ouvert un poste parce qu'il savait que la foi était là. Fait que moi, je suis dans ma chambre, puis je loue le Seigneur. Puis là, je dis, « Tu m'as libérée de la peur. » Ah, puis je me souviens à Sainte-Terre. Puis là, je revis tout ce temps-là, là, toutes les impossibilités. Ah, Seigneur! Puis en fin de compte, c'est le capitaine qui a fermé la base, merci Seigneur. Lui qui en avait fait manger beaucoup aux autres. Hein. Ouh! Anyway, ça serait trop une longue histoire encore une fois. Puis là, je suis là, ah, Seigneur! Puis t'avais ouvert un poste en plus. La nouvelle place, t'as même créé une job, Seigneur. C'est vrai, t'es le créateur, c'est facile pour toi. Ah, oh, puis là, je suis en extase. Il est rendu 4 heures du matin, je suis assis dans la présence de Dieu. Je suis tellement dans la présence de Dieu que je veux même plus aller me coucher. Parce que là, je remémorais d'autres affaires. Puis je regardais à la fidélité de Dieu. Je regardais comment Dieu est fidèle, puis comment il n'abandonne pas sur nous autres. Puis quand on est arrivé là-bas, l'église qu'on a trouvée, puis le monde, Shirley Anne qui était ici cette semaine, c'est moi qui l'ai emmenée à prier comme une débile. Et puis, je regardais comment Dieu était fidèle. Et puis quand je suis arrivée sur la table d'opération, Ils n'ont pas endormi, ils ont juste gelé. Puis là, il dit, « Ah ben, c'est rien qu'un kiss. » Mais voyez-vous, Satan, des fois, là, il va s'arranger pour que ça paraisse sur les examens qui passent, puis ça paraît mal, juste pour créer l'idée que ça pourrait être un cancer. Puis vous savez que s'il aurait fait ça avant Jésus, il aurait eu réussi. Il aurait réussi parce que je l'aurais cru, puis je l'aurais dit, puis je l'aurais emmené en vie. Mais là, parce que j'ai cru à la fidélité de Dieu, j'ai dit, Seigneur, je sais que ça va être rien. Je sais que ça va être rien. Peut-être qu'ils vont ouvrir, puis il n'y aura plus, absolument rien. Mais je sais que ça va virer à rien, Seigneur. Je le sais, Seigneur, parce que tu es fidèle. Puis parce que je me fie en toi, comme je me suis toujours fiée à toi depuis le début. Parce que tu es un bon Dieu. Puis là, je lisais des promesses, puis je lisais des promesses de la parole de Dieu. Puis je disais, Seigneur, quand tu le dis, tu le fais. Puis tu me l'as assez prouvé, Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je m'abandonne à toi. Je suis allée là, puis c'était un kiss, puis une longté. Puis en plus de ça, j'ai su bien des affaires à propos de ce kiss-là, que c'est la raison pourquoi j'ai fait tant d'acné quand j'étais jeune. Le médecin m'a tout expliqué ça. Amen. Et puis, je me suis retournée chez nous, puis j'ai pris une couple de jours de repos, puis ça a été tout. Puis après ça, on continue, la vie est belle. Amen. Savez-vous que c'est une chose très importante à faire? Parce que même avant de connaître le Seigneur, je m'aperçois qu'il y avait quelqu'un en quelque part qui priait pour moi. Parce que après ça, je me rappelais des situations, puis je disais, sûrement que ta main était sur moi. Tu me préservais, Seigneur. Est-ce que j'aurais pu me mettre les pieds d'un plat, des fois, puis risquer de tout perdre à cause de la peur, puis à cause de toutes sortes de choses? Puis là j'ai fini ma nuit à me mettre à genoux. Puis j'avais deux bras dans les airs, puis c'était, je suis plus fatiguée pantoute. Hein? Merci, Seigneur, tu es fidèle. Ça vaut la peine, des fois, de s'asseoir puis de dire, Seigneur, tu as ouvert une porte pour que je reste dans un bel endroit. T'as ouvert une porte pour que quelqu'un me bénisse avec une auto. Seigneur, t'es fidèle. Seigneur, t'es fidèle. C'est ça que Sarah a fait avec Abraham. Parce que toutes les deux n'avaient pas la foi. Toutes les deux, ils ont parti à rire, puis voyons donc. Mais voyons donc. Mais voyons donc. Mais là, c'est ça qu'il disait. Puis, là, Abraham est tellement... Il est tellement ébahi par ça qu'il a tombé à terre, puis il s'est mis à rire, puis il se roulait. Là, ça l'a choqué Dieu, parce qu'il a commencé sa phrase avec « certainement ». Puis je suis pas mal certain qu'il n'a pas dit « oh, certainement, Sarah aura un enfant ». Non, 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 non. L'autre, il se roule à terre, puis il rit, puis la phrase commence avec « certainement ». À cette même année, l'année prochaine, Sarah va te donner un fils. Pourquoi? Parce que, hey, quand Dieu il est fidèle à sa parole, si Dieu dit qu'il va faire quelque chose, il le fait. Amen. Fait que là, j'ai même pas... On va continuer la semaine prochaine sa fidélité parce que j'ai rien dit encore, je m'excuse. Là. Mais on va juste aller à Nombre 23, 19. On va terminer avec ça pour aujourd'hui. Mais ça vaut la peine de s'asseoir. Puis si vous voulez ressentir, si vous dites, ça fait longtemps... que je n'ai pas ressenti la présence de Dieu. Ça fait longtemps que je n'ai pas, là, comme, wow! Tu sais, là, moi, vous dire quelque chose. Allez vous asseoir, fermez tout autour de vous autres, arrangez-vous pour être à peu près une heure tranquille, puis commencez à juste regarder tout ce que Dieu y a fait. Comment il m'a préservé de ci, comment j'aurais pu avoir un accident, comment j'ai tapé dans une patente, puis Dieu m'a sorti de ça, comment il a ouvert une porte ici, commencez juste, puis à chaque chose que vous vous rappelez, faites juste dire, oh merci Seigneur. Faites juste chanter une petite chanson que tu inventes à Dieu. Puis après ça, continuez à en nommer un autre, je vous le dis, c'est infaillible. Elle, ça lui a permis de passer par-dessus l'impossibilité puis d'amener une impossibilité possible dans sa vie. Imaginez ce que ça peut faire dans la vôtre. Amen. Sarah a dit, il est fidèle. Fait que ça veut dire qu'à un moment donné, elle a regardé Abraham et a dit, tu crois-tu qu'il va le faire? Abraham, il dit, ferme la lumière. Ben! À l'âge qu'ils sont rendus, ils ont d'être mieux par ma lumière. On ne mettra pas ça sur renseigne-moi.com. Pourquoi je fais des jokes comme ça? C'est parce que je vous montre la réalité de ce monde-là. Ils n'étaient pas des super-héros, là. C'était pas One Million Dollar Man et puis avec une femme super-héros, il n'y en a pas, je pense. Pas bien, bien, hein? Wonder Woman. Bon. C'était pas, il n'était pas différent de nous. La parole de Dieu nous parle de Élie à un moment donné, puis il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. C'était du monde comme nous autres. Les premières choses qu'ils ont faites, c'est que Abraham s'est roulé à terre, puis il riait. Là, il se voyait un homme de 100 ans. Hello! Puis Sarah qui avait été stérile toute sa vie. C'est comme, Seigneur, on avait ouvert une porte pour toi, Ismaël, c'est pas correct ça? Seigneur, il dit non, c'est pas par lui, c'est par la promesse. Vous le lirez dans, vous chercherez dans les épîtres du Nouveau Testament que Isaac est l'enfant de la promesse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ça l'a rendu une promesse possible pour eux. Je vous mets au défi. Surtout si vous prenez un temps avec le Seigneur. Juste regardez, même je vous le dis, avant de connaître le Seigneur, regardez comment de fois vous avez été préservés, puis comment de fois le monde vous a fait des faveurs, puis vous ne le méritiez pas, ou des choses comme ça. Et la raison, c'est qu'il y avait quelqu'un quelque part qui priait pour vous autres. Mais c'était tout simplement la fidélité de Dieu de répondre à la prière de la personne pour pouvoir agir dans votre vie. Moi, je le juge fidèle. Je ne sais pas à propos de vous. Vous allez dire, qu'est-ce que ça a à voir avec la guérison? Si elle, elle a été guérie de sa stérilité, puis de son âge avancé pour avoir un enfant, ça l'a amené une impossibilité possible. Imaginez ce que ça peut faire dans nos vies. Amen. Oh, hallelujah. On va se lever debout. Alors, la semaine prochaine, on va continuer sur la fidélité.